ensuite, c'est l'intersection de tout ce qui est rouge et de tout ce qui est vert. N'oubliez pas que A et A' sont des trous, c'est pour ça que le rouge, il apparaît là. Mais l'intersection du rouge, ce qui est à la fois rouge et vert, il n'y a que cette partie bleue. C'est l'intersection de ces deux-là. Ça veut dire que vous pouvez tout de suite l'écrire, c'est S plus A multiplié par A plus A'. Alors vous pouvez développer, ça fait S multiplié par A plus S A' plus A grand A plus A A'. Bon, ben pour l'instant, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de développer ça. Mais dans les calculs, ça peut être nécessaire de penser que maintenant, vous allez pouvoir faire de la logique en calculant. Vous n'avez plus besoin de faire des tables de vérité, des choses comme ça.
C'est pour ça qu'on pourrait développer le 0.
Le 0, oui, on peut le développer.
Multipliant les 2 à 3.
Oui, vous pouvez le développer. Et vous verrez ce que ça donne. Je vous laisse faire les exercices. Bon, alors, de quoi on a besoin encore après à partir de la partie bleue? De quoi on a besoin? Ben, on a besoin du sujet barré et de l'autre barré. On va enfin voir apparaître qu'est-ce que ça va être que le sujet barré. Le sujet, il est barré entre S et A'. Qu'est-ce que c'est que S et A'? Bien, c'est S. S et A', est-ce qu'on ne peut pas l'écrire en fonction de... Est-ce qu'on ne peut pas l'écrire en fonction de B? Moi, je crois que le sujet barré, il s'écrit le rouge. C'est le rouge plus le bleu. Le rouge, c'est tout ça. Si je retire de tout ça tout ce qui est bleu, hein, il va me rester le sujet barré. On va voir à chaque étape qu'est-ce que c'est que le sujet barré. Le sujet barré de mu, c'est égal à rouge plus bleu. Je retire l'intersection. Et le A barré, c'est vert mu plus bleu. Alors, je suis arrivé à combien de zones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Eh bien, S barré, ça doit être S mu plus A'. Alors que pour le rouge, on avait fait S plus A. C'est quelque chose qui se trouve dans A', l'objet retrouvé, qui était perdu dans l'aliénation. La partie perdue dans l'aliénation du rouge, qui était la partie de A qui est en dehors de S, cette partie perdue, le sujet, il la retrouve à l'intérieur de lui-même, mais dans le membre de l'autre. Et la relation que S entretient avec cette partie A', c'est ce qu'on appelle la répétition freudienne. C'est ça le lien le plus absolu avec l'objet du désir. Bon. Et de la même manière, vous avez une relation entre A et cette partie de petit a. C'est aussi une répétition, et ça, c'est aussi quelque chose de perdu du grand A, dans l'aliénation première du grand A, qui se retrouve ici dans le membre du sujet. Et c'est avec ça que je vous propose d'écrire le fantasme, c'est-à-dire d'écrire spécialement le poinçon. Qu'est-ce qu'on peut écrire à partir? Si on a obtenu S barré à la fin, qu'est-ce qu'on peut écrire comme relation entre S barré et A en logique, avec ces écritures-là, dans chaque étape? A, on en dispose de A, on va écrire très tôt, dans chaque étape. On a A et on a S barré. Faut les écrire et regarder. Faut lire. C'est là qu'il y a un acte du sujet. Il faut s'arrêter d'écrire systématiquement les choses. Bon, c'est intéressant à un moment, mais à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est la lecture. Et c'est comme ça que je vous propose de construire cet opérateur du poinçon en regardant dans chaque cas, mais particulièrement dans le cas de la séparation, Alors je vais dessiner le cas de la séparation. Si je supprime cet intermédiaire, hein, je supprime cet intermédiaire pour écrire la séparation, c'est les deux trous sont dans l'intersection. Les deux trous sont dans l'intersection. Ça correspond au schéma R de Lacan. Vous verrez que si l'intersection c'est la réalité psychique, ça c'est la réalité psychique. Si le S, le sujet, c'est l'imaginaire, et si grand A, le symbolique, c'est grand A, regardez le schéma R, vous verrez. Le schéma R, vous connaissez, il est comme ça. Alors ça c'est l'étape alpha, beta, gamma, delta, c'est l'étape de delta, c'est le schéma R de Lacan. Qui est comme ça, et qu'on peut mettre sur une bande de Möbius. Vous avez la partie de la réalité qui est là, la réalité psychique. Et bien, si vous regardez bien, vous verrez que Lacan, il appelle, il met petit a et petit a prime ici. Ils sont dans l'intersection du symbolique, avec grand A ici, il y a le verbe qui est disposé là, et puis là, vous avez le sujet, barré, et ici l'imaginaire, dans le schéma R. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce schéma apporte quoi sur ce schéma de Lacan, du schéma R de Lacan? Qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte une chose qui est indiquée dans le schéma avec deux lettres A et A', mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a un lien de répétition entre grand A. Grand A est lié. En tant que A barré, il y a un lien entre A et petit a, ici. De la même manière qu'il y a un lien entre S, c'est la répétition hein, du fameux au-delà du principe du plaisir, qui est pas au-delà, mais qui est l'autre côté du principe du plaisir. Voilà. Alors, pour arriver à écrire ça en logique, et en logique modifiée, là, on peut l'écrire, tout ça, on peut l'écrire en algèbre de Boole. Mais on va peut-être avoir des petits problèmes, c'est qu'on ne voit pas pourquoi petit a, je vous ai dit depuis le début, petit a, c'est prime. Hein? Et petit a prime aussi. Petit a prime, c'est le faux, c'est les antilogies de la logique. Donc on a grand a, a prime, le vide. Voilà. Il y a un problème qui va nous conduire au traitement des psychoses. C'est la façon dont on lit ça en relation avec le vide, hein, puisque Lacan nous dit la psychose sociale, il hein, y a une croyance dans le Père Noël, dans l'instauration de laquelle Pascal nous aurait précédé. Ça relève d'une psychose sociale dans l'instauration de laquelle Pascal nous aurait précédé. Bon. Et je disais la semaine dernière que ce vide, eh bien, il fallait voir que les lettres au Père Noël, c'est des lettres sur le vide. C'est des lettres de Pascal au Père Noël, comment il s'appelle? C'est un jésuite, un père jésuite, qui écrit deux lettres, et Pascal écrit deux lettres. Et dans l'édition, dans les éditions du Seuil, le Père Noël, oui. Comment il s'appelle?
Mersenne?
Non, c'est le Père Noël. C'est un père jésuite. Il s'appelait Noël, c'est son nom. Ben, lisez ça. Alors, vous avez, dans la Pléiade, vous avez juste les lettres de Pascal. Dans l'édition du Seuil, les œuvres complètes de Pascal au Seuil, c'est des livres moins chers et plus gros. C'est écrit plus gros, le papier est plus gros, tout est plus gros. Mais il y a aussi les lettres du Père Noël. C'est ça qui est intéressant. Enfin, vous pouvez les photocopier en bibliothèque. Hein, parce que Pascal en Pléiade, c'est pas mal, dans la mesure où on a beaucoup d'autres choses. Parce qu'au Seuil, il y a deux volumes, enfin, c'est enquiquinant à transporter. Bon, donc, je vous signale que les lettres du Père Noël elles-mêmes, et pas seulement les lettres de Pascal, sont dans l'édition du Seuil des œuvres complètes de Pascal. Bon, ça vous évitera d'aller les chercher, mais peut-être qu'on peut les trouver sur Internet, et les télécharger et les imprimer. Donc. Bon, alors il faut regarder les arguments du Père Noël, mais il faut regarder les arguments de Pascal. Et ce que je vous dis, les arguments de Pascal, c'est qu'il y a un type qui a étudié ça de très près et qui a montré et démontré, et il pensait avoir fait une grande découverte, mais il n'est jamais qu'un bon confirmer ce que dit Poiret, c'est que les expériences, elles n'ont aucun intérêt en dehors du discours. Ce que démontre le type à propos des expériences sur le vide et l'équilibre des liqueurs de Pascal, c'est que les expériences elles-mêmes, c'est du pipeau. Le Père Noël, il n'a pas tort. Le problème, c'est que le Père Noël, il fera jamais les expériences sur l'équilibre des liqueurs et sur le vide. Pourquoi ? Parce que ça ne l'intéresse pas, il parle d'autre chose. Il parle d'autre chose. Donc il ne fera pas des expériences. Il tandis que Pascal, la conception qu'il finit par se faire du vide le conduit à imaginer les expériences. Et que les expériences en question, elles sont secondaires, on va appeler ça comme ça, si vous voulez, c'est la réalité, ça existe, c'est pas, on peut faire des expériences. Et il y a des expériences qui ont une valeur scientifique, qui ont une valeur au sens où le dit Popper. Popper le dit très bien, il s'agit de falsifier une théorie par l'expérience, pas de prouver, pas de vérifier la théorie. Bon, mais que les expériences de Pascal, elles n'ont aucune valeur de falsification. De son Pascal, moi j'aime quand même, comme je suis de l'avis de Popper, c'est pas scientifique d'être vérificationniste, mais le crève-tonneau de Pascal, par exemple, moi, quand j'étais jeune, ça m'avait vachement épaté, et puis ça montre que la formule, elle marche bien. Vous connaissez le crève-tonneau de Pascal ? Vous connaissez pas cette expérience magnifique ? On peut pas utiliser ça au music hall et au cirque, parce que les spectateurs comprendront rien. Mais c'est pas extrêmement subtil. Le crève-tonneau de Pascal, c'est l'idée de la force. Vous savez, si vous avez un liquide dans un volume, les forces qui s'appliquent ici sur les parois du volume, elles dépendent de la hauteur multipliée par la largeur du récipient. Les H et L. C'est H multiplié par L ou L multiplié par H qui vous donne la force qui agit en chaque point de la paroi du récipient. Ok ? Bon. Alors, qu'est-ce qu'il a imaginé, Pascal ? Un truc très très marrant. Le tonneau de Pascal, c'est quoi ? C'est qu'il prend un tonneau, pas trop grand, un petit baril, comme ça, vous voyez, avec des trucs en métal pour bien tenir tout ça. C'est assez costaud, un tonneau. C'est assez costaud. Ok ? Bon. Il le remplit d'eau, et le tonneau, il tient très bien le coup quand il est rempli de vin, d'eau, de vinaigre, ce que vous voulez. Et Pascal, il ajoute juste un petit tube à essai ici. Très, 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 très haut. C'est ça, les liqueurs. Un petit tube à essai très, 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 très haut. Il s'est fait fabriquer des tubes en verre très longs. Je ne sais pas combien de mètres il fait, d'accord ? Et il remplit d'eau le tube à essai. Vous voyez ? Jusqu'au moment où ça pète, parce que c'est pas la peine de remplir un volume équivalent au tonneau, parce que l'important, c'est la multiplication par la hauteur de liquide et par la section la plus large qui va faire que vous allez avoir ici un effet d'hydrostatique qui fait que le tonneau explose. Moi, je trouve ça génial. Je trouve que c'est quand même un truc assez marrant, parce que ça prouve bien que la lettre, elle est autre chose que du liquide. Il y a là-dedans, c'est comme Archimède, si vous voulez, ça mouille, mais il y a du liquide qui mouille pas. C'est comme si la lettre vous dit, il y a du liquide qui pousse. Vous voyez, c'est un super théorème d'Archimède. Il y a un liquide qui est là, mais il n'est pas là. On n'a pas besoin de le mettre, il n'a pas besoin de mouiller pour être là et avoir comme effet l'effet que vous indique la lettre. La formule marche. Il y a un rapport entre la multiplication des lettres et l'effet physique, statique, physique, oui, des corps et des liquides, qui fait que la lettre, c'est ce qui fait dire à certains physiciens, hein, que c'est l'insolence, la réussite insolente des mathématiques. C'est absolument insolent, quoi, que les équations fonctionnent sans demander au liquide son avis. Non, vous ne trouvez pas ça amusant ? Comment ?
J'avais lu un bon bouquin sur cette histoire de vide, c'était le Léviathan et la pompe à vide.
C'est-à-dire,
il disait que le vide ne peut pas exister parce que philosophiquement, c'est impossible.
Voilà.
Et puis il y avait un mec qui s'appelait Boyle, et lui, il
voilà,
pompait le vide. Alors il pompait le vide, et
puis, oui, oui.
Et puis ça.
Mais oui, c'est comme ça qu'on fait fonctionner c'est le tube marrant, de Newton. On enlève dans le tube de Newton, vous enlevez l'air, et là, vous avez bien la plume et la bille, elles tombent ensemble.
Voilà.
Il n'y a plus de frottement. Hein? Donc la plaisanterie qui dit qu'est-ce qui est le plus lourd, hein, qu'est-ce qui est le plus lourd, un kilo de plume ou un kilo de plomb, la plaisanterie consistant à tromper en mettant l'accent sur qu'est-ce qui est le plus lourd, et plume et plomb, c'est la masse, mais c'est pas le poids. Mais qu'est-ce qui est le plus lourd, un kilo de plume ou un kilo de plomb, c'est un kilo. C'est même, c'est ni l'un ni l'autre n'est plus lourd, ou moins lourd que l'autre. Bon, mais là on joue sur les mots, mais cette blague, elle permet justement d'éluder le fait que personne ne fait ensuite attention dans le tube de Newton à ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que la plume et le plomb, hein, dans le vide, ils subissent la même accélération, il n'y a pas de frottement, leur poids importe peu, c'est le off, ça, ils descendent ensemble. C'est la même accélération. Donc la vitesse augmente de la même manière, donc d'un état d'une vitesse zéro, il passe à une vitesse plus élevée en s'accompagnant. Donc, c'est pas plus lourd, mais qu'est-ce qui va plus vite d'un kilo de plomb ou d'un kilo de plume dans le vide? Et à ce moment-là, vous savez ça, qu'ils ont la même vitesse. C'est plus Achille et la tortue, c'est le contraire d'Achille et la tortue. C'est quand même rigolo, la physique.
Sauf que les plumes peuvent s'envoler.
Bah oui, ça c'est dans l'air, justement. Il faut de l'air pour qu'elles s'envolent. Je dis pas le contraire, hein, que vous lâchez une feuille de papier, ça tombe pas comme une bille de plomb, ça, donc quand il y a de l'air. Bon. Donc, écoutez, c'est tout de même. C'est très intéressant de voir que Lacan, lui, stigmatise la psychose sociale, la subjectivité scientifique, comme donc un alibi, une croyance dans la liberté, une notion du réel qui est un alibi. J'en ai parlé la semaine dernière. Et puis, cette croyance dans le Père Noël, la croyance dans le Père Noël, c'est la croyance de Hobbes, puisque le Père Noël, lui, il n'admet pas le vide, ce que vous dites de Hobbes. Hein. Mais Pascal, c'est pas du tout sûr qu'il ait démontré quoi que ce soit. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est que tout le monde, ensuite, va devenir newtonien et pascalien. Regardez aujourd'hui le champ de gravitation de Newton. On appelle ça le champ de gravitation de Newton, mais Newton, il avait tout à fait la notion qu'il n'en savait rien. Je vous ai déjà expliqué comment il l'a fabriqué, à partir de la dissipation de la chaleur, à partir d'une source. Eh bien, la formule, il l'a fabriquée, elle est approximative, puisqu'il va falloir Einstein pour l'améliorer. Les équations de Maxwell, et ensuite Einstein, et la relativité, ça généralise largement la mécanique newtonienne. Mais qu'est-ce que vous avez là dans tout ça? Vous avez quand même l'idée qu'il y a un certain obscurantisme dans la façon de raconter l'histoire des sciences, ou même la science, puisque aujourd'hui on vous parle d'un champ de gravitation. Bon, on est. Hein, les théologiens qui posaient la question, ça, Coiré raconte très bien dans les études newtoniennes, hein, les théologiens qui demandaient à Newton comment les particules ou les corps peuvent-ils savoir qu'ils sont à telle distance les uns des autres et qu'ils ont telle ou telle. Masse, que les autres ont une masse qui va déterminer la force d'attraction. Hein. Newton, il disait, j'ai pas hypothèse Montefingo, je n'ai pas besoin de feindre des hypothèses supplémentaires, j'en sais rien. Et il ajoute en aparté, c'est peut-être Dieu qui les pousse du doigt. Bon, donc ce qu'on appelle depuis le champ de gravitation, qui est une construction mathématique, la théorie des champs, vous avez même un livre magnifique du mathématicien Milner qui parle de géométrie différentielle d'un point de vue topologique, hein. Ça s'appelle différentielle géométrie from topological point of view. C'est un tout petit livre de Milner, c'est un bijou absolu. Et bien lui, il explique qu'est-ce que c'est que ces histoires de champs, mais littéralement, enfin je veux dire littérairement, d'une manière littérale, il explique qu'est-ce que c'est que du point de vue topologique la géométrie différentielle. Bon, donc ce sont des écritures et ça marche. Alors quand on parle, quand on veut substantifier, c'est la même chose que ce qui se passe quand Lacan se plaisante, il se moque de nous. Quand il parle du champ freudien, le champ freudien, ce serait le langage. Hein? Le champ freudien, c'est le langage, c'est le plan projectif, c'est le fonctionnement de la bande de Möbius dans le plan projectif, la coupure du plan projectif, par une coupure qui va produire une bande de Möbius. Bon. Vous avez le champ freudien. Et ensuite, il dit, dans l'année, là, quand il commence son séminaire, après, quand il se fait virer de l'école normale, il propose de construire le champ lacanien. Et il dit que c'est un moment où il est en train de parler de l'anétosphère. Parce que alors, Lacan, il parle, contrairement à ce qu'on croit, d'un champ qui, lui, est très important pour les sujets qui sont les cosmonautes. Il dit, l'anétosphère, c'est quoi? C'est le contact radio. Tant que les sujets restent en contact radio avec la Terre, tant qu'il y a la parole, on est dans la nétosphère. S'il n'y a plus de radio, alors ça s'est passé il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, je ne sais pas, il y a des cosmonautes qui se sont retrouvés dans la station sans possibilité de communiquer pendant plusieurs heures, que ça a peut-être duré plusieurs
jours. Comme des mineurs dans la mine.
Oui, c'est comme des mineurs, voilà. Là, pour Lacan, il dit que c'est ça qui est déterminant, c'est quitter la létosphère. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de contact radio, alors là, le sujet, il est vraiment ailleurs. Hein? Je ne sais pas si vous avez envie d'aller ailleurs, mais vous pouvez essayer. C'est quand même quelque chose que Lacan considère comme beaucoup plus fondamental. Et à ce moment-là, quand il est en train de parler de cette létosphère, et qu'il a parlé avant du champ freudien, il lui arrive de parler, il dit qu'il faudrait, que lui n'aura pas le temps de le faire, qu'il faudrait construire le champ lacanien, et il définit le champ lacanien comme le champ de la jouissance. C'est pour ça que tous ces petits crétins de moralistes ont commencé à parler de la jouissance et que finalement ne pourront pas rêver comme d'une morale en disant que ce n'était pas bien puisque la jouissance se trouve dans l'insatisfaction. Et là, c'est la satisfaction du désir qui est dans l'insatisfaction, donc il y a les deux.
Oui. C'est le champ de jouissance en tant qu'appareil du langage produit de la jouissance sur le
corps. Oui, mais qu'est-ce que c'est que cette jouissance? Il faut la définir. Bon, et en plus de ça, ce champ de jouissance, moi je vous dis que ça c'est une entrée dans l'écriture du champ de la jouissance et qui se prolonge justement avec les schémas, avec les surfaces et avec les nœuds. Vous voyez? Et que c'est. Moi je ne dis pas qu'il s'agit de représenter ce champ, et même le substantifier. Je sais bien, Lacan a posé la question dans le séminaire Les Non-Dupes, je crois. Il dit. Pour Descartes, il y a une substance étendue, une substance pensée. Lacan, il pose la question, pourquoi il n'y aurait-il pas une substance jouissance? Mais c'est un piège, à mon avis, parce que quel besoin de substantifier? La substance, c'est quoi? C'est l'analyse grammaticale latine. Hein? Ce qu'on appelle bêtement le substantif, c'est parce que c'est une grammaire en latin qui classifie, qui analyse.
C'est l'hypostase.
Non, mais ça, déjà, vous rentrez dans des considérations philosophiques et théologiques.
Aristote, on ne
peut pas. Oui, mais c'est pas ça. Je vous dis que le grammairien qui considère que un mot comme un verbe, n'importe quel verbe de la langue, prenez le verbe chanter. Non, il y a plus de poussière qu'on ne plus bas.
Non, c'est le dessus tableau.
Oui, pour le dessus tableau. Prenez le verbe chanter. Le verbe chanter, il y a un sujet du verbe chanter, c'est le chanteur. Vous conjuguez le verbe pour faire une phrase. Le chanteur chante. Le verbe, c'est chanter. Il chante quoi? La chanson. Et quelle est la substance? Le substantif. C'est le chant. Donc là, pour le verbe chanter, vous avez quatre termes bien distincts dans cette analyse. Hein, le chanteur chante la chanson, ça s'appelle le chant. C'est ça la substance. On en a fait du substantif. Les gens, pour avoir l'air savants, ils utilisent la grammaire latine pour vous parler de la grammaire des langues. C'est pour ça que Chomsky est important. C'est la seule chose qu'a fait Chomsky, c'est qu'il a introduit groupe nominal au lieu de substantif. On ne parle plus du substantif, on parle du groupe nominal. L'article et le nom. Bon, dans le groupe sujet. Vous voyez? Bon, au moins, on se débarrasse de ça. Mais il faudrait commencer à réfléchir que la jouissance, c'est un substantif. Hein, vous avez le verbe jouir. Le verbe jouir, il a un sujet. Le jouisseur, il jouit. Il n'y a pas un mot pour désigner l'objet. Alors, Alors nous, on pourrait dire peut-être de son fétiche, si on pense au pervers. Mais vous voyez, moi, je pense que c'est une erreur d'identifier le jouisseur au pervers. Parce que je pense que... Tiens, là, est-ce que je rejoins les moralistes en disant que les névrosés, dans la phobie, ils jouissent aussi de son objet de phobie? Après tout, pourquoi pas, hein, pourquoi ce ne serait pas jouir d'avoir peur, de se faire une peur pour éviter l'angoisse? Bon. Toujours est-il que moi, je ne rentre pas dans ces considérations morales.
Enfin, c'est un déplacement, ce moment.
Oui, c'est un déplacement. Mais je trouve que ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de voir que le jouisseur jouit de quoi? Dans la langue, il n'y a pas un mot qui dit cet objet. Bon. Le complément du verbe. Bon. Et par contre, la substance, c'est la jouissance. Bon, donc la jouissance, c'est la substance du verbe jouir. C'est le... au sens de la grammaire latine, moi je suis matérialiste. Pas au sens où je suis, pas au sens de l'équilibre des liqueurs. Vous voyez? Enfin, ce que je veux dire, c'est que moi, je ne confonds pas les humeurs du corps avec la jouissance. Je ne sais pas. Les humeurs, les excrétions du corps, les parades sexuelles, je ne confonds pas tout ça avec la jouissance. Bon. Mais la jouissance, sûrement, joue un rôle là-dedans. Et ce qu'elle joue, à mon avis, justement, c'est ce qu'on ne comprend pas, c'est que. Je vous ai raconté le passage que Freud ajoute au essai sur la théorie de la sexualité. C'est pas pour faire une sexologie, mais c'est pour dire quand même que si on veut parler du champ de la jouissance, il faut commencer par dire ce que c'est que la jouissance. Bon. Alors je viens de voir qu'il y a un livre, il y a une dame qui a publié un petit livre qui, sur le vocabulaire de la psychanalyse. Vous n'avez pas vu ça? Parce qu'il y avait hier soir la présentation chez Chan du livre, elle signait son livre. Et alors, elle a fait. C'est chaque mot de la psychanalyse, il y a peut-être 80 entrées. C'est un tout petit livre. Mais elle fait. C'est des recherches dans les dictionnaires, dans tous les dictionnaires en langue française. Et ensuite, petit à petit, elle a introduit le terme freudien, elle discute la traduction qu'on a choisie. Et c'est intéressant, mais elle ne parle pas beaucoup de Lacan. Les termes. Ça s'arrête en chemin, disons, son effort. C'est ça qui me paraît dommage. Mais c'est pas inintéressant de regarder quand même. Est-ce qu'elle apporte quelque chose? Qu'est-ce qu'elle peut apporter par cette façon de faire, justement, à ces précisions initiales, à ces définitions des termes primitifs? Oui.
Oui. Lacan, quand même, quelque part, en tous les cas dans la topologie, dans le nœud, il arrive à nous en donner quatre des jouissances, finalement. Donc il y a quelque part.
Vous savez lire Lacan dans cette partie où moi je le lis, moi je commence à. Peine, hein.
Non,
il faut que vous m'expliquiez tout ça parce que moi je ne comprends pas. Hein.
Ah, il parle quand même.
Faut que vous fassiez un cours. Hein.
Ah, non.
Si.
Non, ça va s'il y en a 4 ou 1.
Ça, j'en sais rien, je vous promets. Moi je sais, je commence à me rendre compte de ce que c'est qu'un nœud. Je commence à savoir que je viens de m'apercevoir ce que c'est que le plus 1 dans les nœuds chez Lacan. Donc j'en suis pas encore à 4, vous voyez, j'en suis à 1 en plus. Non, je vous promets, moi je ne dis pas. Moi je ne comprends pas tout Lacan. C'est Alouche et Le Goffet qu'on fait le patou Lacan. Pas tout. Ils comprennent pas tout non plus, ou ils comprennent tout patou, je ne sais pas.
Il y a un mec qui a trouvé 18 justement sur Lacan.
Comment il y en a qui a trouvé 18?
Il a trouvé 18.
Ah, mais ça, c'était aussi. Il y a eu aussi l'histoire sur les 4 discours. Il y a quelqu'un qui en a trouvé 24. C'était normal. Puisqu'il y a 24 permutations de 4 éléments. Lacan, on a choisi que 4, il y en a 24. Il est parti de la salle quand il a entendu ça, Lacan, en disant il n'y a pas de discours. C'était ce brave Bernardis qui était en train de dire ça. Le brave Bernard qui avait oublié d'enlever ses pinces à vélo, parce qu'il était bien vélo, à la tribune. Et Lacan n'était pas content du tout parce que Bernardis, voilà, tenez, Bernardis, c'est typiquement quelqu'un qui fait des maths comme un scout. Vous voyez, quand il découvre tout à coup, grâce à son fils qui est mathématicien, agrégé, il découvre tout à coup qu'il y a 24 permutations de 4 éléments, alors il dit il y a 24 discours. Et hop, il commence à essayer de les énumérer, de trouver 24 noms, 24 discours. Alors Lacan, il a haussé les épaules, il est parti. Alors qu'il venait d'aider Solange Faladé, elle lui avait apporté son séminaire, parce qu'elle voulait parler du réel. Et elle dit en commençant son exposé que le docteur Lacan est venu un soir chez elle lui apporter le séminaire auquel il cherchait à lire, qu'elle n'avait pas. Je ne sais pas si c'était la logique du fantasme ou tout ça. Et elle essaye de construire le matème de la perversion. Alors il existe dans Lacan, mais elle s'en est pas perçue. Hein, le matème de la perversion, vous savez, Lacan le donne dans Subversion du sujet, mais il le donne en langue. le baptême de la fétiche, le baptême de la perversion.
Il donne le grand test de la.
Alors il dit à propos du grand test de la barrée, il dit le pervers, il substitue le petit tas au grand tas. Donc le baptême de la perversion, c'est ça. C'est pas la part qui disparaît, c'est, bon, c'est un petit tas.
Et ben dans le séminaire 16, il donne le grand test de grand tas.
Et bien ça, c'est des gens qui l'ont mis au point qui ont fait ça.
Ah non, parce qu'il en parle longtemps.
Écoutez,
il dit que le pervers, il supprime la barre du grand tas.
Il supprime la barre, peut-être.
Il y a eu son petit tas, là.
Oui, mais pas à cet endroit-là. Dans les écrits, il dit que c'est S, c'est substitué. Et même s'il fait cette opération, quand il vient de commenter cette chose qui est aussi très intéressante à commenter avec ça, en disant que c'est le sexe mâle qui est le sexe faible au regard de la perversion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, il conclut par cette substitution du petit A au grand A barré dans Subversion du sujet, quand il vient d'écrire ça. Il dit, et c'est pour ça que le sexe mâle est le sexe faible au regard de la castration. Alors, pourquoi le sexe faible est-il? Pourquoi est-ce que le sexe mâle est le sexe faible au regard de la castration? Ben, il faut voir que déjà, vous avez quelque chose qui s'appelle le travestisme qui vous met sur la piste. Parce que il faut quand même être un psycho un peu borné, ou un flic, ou une assistante sociale, pour considérer que le travestisme, c'est pas bien, parce que ça finit par une scène d'exhibition. L'exhibition des organes. Et vous voyez bien, alors, est-ce que vous imaginez la logique qui se joue derrière le travestisme aussi? Le travestisme se caractérise par le fait que ça s'achève par l'exhibition du fait que le sujet, justement, il est mal. Et bien justement, parce que c'est pour ça que c'est le sexe faible au regard de la perversion, et pas du fait de l'exhibition, du fait qu'il n'y a rien de mieux qu'un homme pour faire femme, hein, puisque le travestisme, c'est quand même faire croire à la féminité, c'est séduire, c'est pas simplement se déguiser, ça va plus loin que le déguisement, c'est comme le théâtre, c'est comme l'identification, c'est comme la peinture, la musique. Le travesti, c'est quelqu'un qui fait de la mimésis. Et la mimésis femme, il n'y a rien de plus extrêmement femme que ce soit dans le cas justement où c'est un type. Et il le montre qu'il est un type. Vous voyez? Pour justement. Donc, c'est pour ça que je trouve que les drag queens, c'est un affaiblissement. Hein? C'est Schreiber qui est une drag queen. Les vrais pervers qui ne sont pas parallèles, qui ne sont pas des drag queens, ils sont des travestis. C'est une des figures de la perversion qui fait beaucoup confusion avec l'homosexualité, d'ailleurs. Hein? Mm-hmm. C'est ce genre de superposition, d'intersection qui fait que. L'autre difficulté avec la perversion et l'homosexualité, c'est également le fait que Lacan a choisi Gilles, dont il dit, hein, dans le désir et son interprétation, qu'il est pervers et homosexuel. En l'occurrence, pédophile. Donc, il le spécifie bien. Et donc, en ayant choisi Gilles spécialement dans la jeunesse de Gilles, qui est une reprise de ce qu'il dit dans le séminaire, le désir et son interprétation, vous voyez que ça complique la vie des lecteurs de Lacan qui préfèrent s'en remettre à Freud ou même pas, s'en remettre à leurs préjugés. Donc comment arriver à sortir de ces préjugés pour parler de ces choses sans faire une sexologie et sans véhiculer tous ces préjugés? Moi je pense que Lacan nous donne les moyens de faire ça. Et que c'est un discours qui est tenu et qu'il faut le lire. Et commenter, il faudra le faire encore pendant longtemps pour que petit à petit rentre dans le langage, dans le discours, un peu plus de précision et moins de grossièreté, un peu plus de pudeur et moins de propos à l'emporte-pièce concernant les hommes, les femmes, les homos, les hétéros. Et on est loin du compte. Parce que les vrais trinquines, on se met devant un miroir, on fait sa poitrine, il se dira.
Moi je pense que Gide serait interdit, oui. D'impression, de diffusion, donc d'édition.
Aujourd'hui.
Aujourd'hui.
Ah ben oui, bien sûr. C'est pour ça que sa fille a publié est l'épervier.
Et c'est une époque grave à cause de ça. C'est un fascisme.
Mais vous savez que la psychanalyse a une responsabilité là-dedans, puisque les psychanalystes veulent remplacer la psychanalyse par l'analyse d'enfants pour éviter de faire leur analyse, découvrir le vide. Ils veulent l'observer chez les autres, croyant que c'est des sciences expérimentales. Du coup, ils ont développé, après Madame Anna Freud et Mélanie Klein, Dolto, Moïse Mannoni, la psychanalyse d'enfants, c'est eux les escrocs. Parce qu'on n'apprend pas la psychanalyse. Regardez, Freud le dit explicitement. Regardez la première page de l'observation de l'homme loup. Il dit, je vais étudier une névrose infantile chez un adulte. Et il dit, chez un enfant, ça n'a aucun intérêt, puisqu'il n'y a pas de travail. Et ce qui intéresse Freud, c'est le travail de l'inconscient, c'est la déformation. Comment on arrive même à parcourir, pour l'homosexuel, par exemple, toute la structure, passer du rejet du féminin parce qu'il n'y a pas de pénis, au rejet du féminin parce qu'il y aurait un pénis caché à l'intérieur qui serait celui du père. C'est ce que Lacan appelle parcourir toute la structure dialectique. Hein. Réprouver quelque chose et ensuite réprouver la même chose pour la raison contraire. C'est bien une dialectique, ça. Bon. Vous voyez bien que tout le monde s'en fout de cette dialectique. Tout le monde préfère porter des jugements et émettre et se rendre pas compte que c'est jamais des expressions de leurs préjugés inanalysés. Bon. Donc moi, je propose que l'analyse, elle est extrêmement responsable dans cette... Dans ce... Moi, j'ai l'impression, si vous voulez, que les journalistes nous disent, et font parler la population, ils nous disent, il n'y a pas que les analystes qui peuvent surplomber la vie sexuelle des jeunes gens, on va inventer les reality shows, et on peut être psychanalyste dans son fauteuil, avec un contrôle remoto, et on passe de la chaîne 1 à la chaîne 2, où justement, vous avez des jeunes gens qui sont en train de se lamenter pour se raconter entre eux, les pauvres chéris, leurs aventures amoureuses, n'est-ce pas ? Et que tout le monde peut être le psychanalyste, comme si la psychanalyse consistait à s'intéresser aux histoires comme ça, amoureuses des adolescents. Ça, il y a des mères de famille qui font ça, mais c'est vraiment effrayant. Bon. Et puis, pareil pour l'analyse d'enfants, vous voyez ? Donc, la presse et le monde entier nous renvoie aux analyses. Ah, vous, il n'y a pas que vous qui pouvez être des pédophiles, et puis de toute façon, la pédophilie, ça va au crime, donc la psychanalyse est un crime. Oui, il n'y a pas besoin d'attendre le Goffet pour ça. Le Goffet, non, comme il s'appelle, Onfray. Bon. Et donc, vous voyez que je pense que nous avons une responsabilité énorme dans ce délire psychotique sur la pédophilie. Bon. Maintenant, ça ne nous fait pas faire l'économie d'une discussion. Gide qui disait j'ai essayé de pas nuire. Vous remarquerez que Deleuze dit la même chose à propos de la drogue. Il dit on a essayé d'éviter. Hein, on a parlé de schizoanalyse, mais on les a un peu arrêtés là-dessus. C'est pas simple cette histoire de prétendre pas nuire. Vous comprenez, c'est quand même très divisible. Seulement, ce que nous pourrions dire dans la psychanalyse, par exemple, c'est que quand Lacan explique que la sexualité masculine, c'est toujours divergent. C'est adresser son désir à une femme pour pouvoir adresser sa demande d'amour à sa femme. Hein. Et que cette autre femme, c'est la vierge ou la putain la plupart du temps. Bon. Ça éclaire beaucoup la séduction des hystériques à l'époque de Freud. Quand Freud a cru à la théorie de la séduction. Lisez les Rougon-Macquart de Zola, vous allez voir. C'est, les Rougon-Macquart de Zola, toute la maladie nerveuse de d'une moitié de la famille, hein, les Macquart, eh bien, vous allez voir que ça remonte à l'ancêtre commune de tous ces gens qui a été séduit par le père. C'est un inceste père-fille. Donc tout le monde pensait que l'inceste était la cause des maladies nerveuses à l'époque de Freud. Bon. Freud, il a cru à la séduction à un moment. Il l'a abandonné. D'accord ? Bon. Mais regardez l'explication de Lacan quand il parle de la sexualité masculine. C'est évident que la petite dans la famille, la jeune fille, hein, elle n'est pas idiote, elle se rend bien compte qu'il y a des regards du tonton ou du papa, hein, qui sont des regards de désir. Que la séduction, c'est comme ça qu'elle se passe. Ça veut dire que le fait que les mecs soient intéressés par une autre femme, hein, et que c'est souvent la petite, la vierge, la putain, l'autre femme, et que les femmes, elles sont intéressées par une partie du corps de leur partenaire, c'est enseigner, pas une sexologie, mais une théorie de la sexuation. Je prétends que c'est une tâche aussi importante que l'assèchement du zuiderzeil dans la civilisation.
Oui, mais si les hommes portent des pantacours,
oui,
avec les mollets rasés,
oui,
est-ce que ce serait tendance?
Quand ils sont pères de famille.
Comment se fait-il,
jeune père de famille aujourd'hui,
qu'ils puissent, imaginons, écrire à la rédactrice en chef ou rédacteur en chef de Psychologie Magazine,
oui,
un courrier demandant un conseil, qui, oui, serait le suivant. Ma petite fille a 8 ans, Puis-je encore prendre ma douche avec elle le dimanche?
Oui.
Ce qui est quand même.
Eh ben, moi je pense que la psychanalyse, elle peut pas dire.
Ce qui est vrai.
Elle peut pas dire que c'est bien ou c'est pas bien. Il n'y a pas de conseil à donner dans la matière. Il n'y a pas de bonne manière de faire. Bon. Seulement, ce qui est suspect, c'est 8 ans, 10 ans, 15 ans, Anaïs Nin.
Oui, c'est le temps, mais en fait, c'est un problème de temps.
Et c'est aussi vrai sur les
points de vue.
Oui, et c'est aussi vrai pour les fils avec les mamans. C'est beaucoup plus insidieux. Bon.
Oui, mais là, il y a un tabou.
Mais non, mais il y a surtout une atteinte subjective plus forte. Oui. Bon, mais ça, c'est même Tommy Nathan est capable de le dire, cette anthropologie. Mais oui, il l'explique très bien, ça, l'inceste père-fille, l'inceste frère-sœur et l'inceste fils-mère, ça n'a pas du tout la même portée en ce qui concerne le réseau des parentés et la subjectivité de chacun des sujets. Bon, c'est pas idiot ce qu'il dit, mais ça va pas très loin, ça met pas en jeu une théorie de la sexuation. Bon, donc moi je pense que la psychanalyse, elle a pas d'indication à donner. Elle s'interdit toute. Comme le dit Freud à cette dame qui lui demande comment je dois élever mon enfant, docteur, vous pourriez me dire, vous qui avez une telle expérience, ça, Freud il lui répond, de toute façon, madame, ne vous en faites pas, ce sera une catastrophe. Bon, de toute façon, donc, si vous évitez la douche des pères avec les filles à 8 ans, vous risquez aussi de vous retrouver avec des difficultés qui donnent des résultats absolument inouïs qu'on ne peut pas prévoir. De certaines pratiques, je ne sais pas moi, de la mère avec l'enfant à n'importe quel moment, ou du père avec l'enfant. J'ai fait du nourrissage et du maternage avec mes enfants. C'est la seule chose dont je peux témoigner comme père, puisque le père est inconscient, je ne peux pas savoir ce que c'est. Donc quand je le voyais, je vous dis, quand je suis arrivé à la maternité avec mon second enfant et que j'ai commencé à lui changer ses couches, l'infirmière a voulu me demander, elle m'a dit, mais vous voulez que je vous explique comment on fait? Alors je lui ai dit, non, je viens de faire un stage, parce que j'avais eu un enfant un an avant. J'avais une partie en plus, on est au plein de disant, mais non, il y a des stages, c'est pas les pantalons courts, là, c'est les stages des pères pour nettoyer les enfants. Bon, donc, moi je crois qu'il faut dire que faites comme vous pouvez, faites comme vous voulez, mais faites quelque chose et puis prenez vos responsabilités et vous pouvez apprendre à lire. C'est ça qui est important. Et puis aussi s'engager dans ce qu'on fait. Il ne faut pas dire que c'est bien, que c'est parce que c'est bien, ou parce qu'on l'a dit, ou parce qu'on ne l'a pas dit. Ça, c'est nul. Moi, je fais des choses, je ne sais pas. J'aime le camembert, j'impose le camembert à personne. Et ça reste. Alors, oui, vendredi, est-ce que vous êtes d'accord pour faire un cours? Hein? Parce que comme ça en fera un plus. Puisqu'ensuite, il n'y aura que le mardi suivant et après, je m'arrête jusqu'en janvier. Non, mais il y a suffisamment de candidats pour le vendredi ou pas? Qui ne peut pas venir, par exemple? Ah, vous. Bon. Alors, on sera à la moitié, quoi. Moi, je veux bien faire le cours parce qu'il est enregistré. Mais il faut qu'il y ait quand même quelques auditeurs parce que je ne parle pas de la même manière tout seul. Bon, allez, bonsoir.